Espace 2.
Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire, il est ici question de l'école de New York, John Cage, Morton Feldman et les autres. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour Catherine Buzer.
Bonjour Jean-Luc.
On se rend bien compte de ce qu'a été, de ce que reste aujourd'hui encore, 50 ans après, cette école de New York qui a fait florès dans les années 50, dans les années 60, des compositeurs, oui, mais pas seulement, Catherine.
Oui, puisque l'école de New York touche surtout le domaine des arts visuels. À l'origine, quand on parle de l'école de New York, on fait référence à des peintres actifs dans les années 40 et 50, donc un tout petit peu avant nos musiciens.
Oui.
Pour mieux comprendre les motivations des compositeurs qui nous accompagnent dans cette école, il est très intéressant de jeter un œil dans l'univers des peintres de l'école de New York. Et j'ai demandé à Ivan Illich ce qu'on entend par école de New York dans la peinture.
Il nous répond, Ivan Illich, votre invité cette semaine, pianiste, américain, passionné par cette école de New York.
Une formation tout à fait traditionnelle pour ce décounning, corps, percussion, piano, violon, violoncelle. Mais voilà ce qu'en a fait Morton Feldman. Morton Feldman, c'est votre domaine, Ivan Illich, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez parfaitement bien ce compositeur. Alors qu'est-ce que c'est que cette pièce que nous venons d'entendre?
Alors c'est une pièce en hommage à l'une des figures majeures du mouvement de l'école de New York de peinture des années 40 et 50, William de Kooning. Peintre néerlandais qui a emménagé aux États-Unis à 22 ans et qui était une autorité dans la scène new-yorkaise de peinture.
Alors une œuvre emblématique pour le thème de l'émission du jour qui sera la peinture. Parce qu'il faut savoir que l'école de New York a été d'abord une école de peinture qui a touché les arts visuels avant de toucher la musique. Alors pour mieux comprendre l'aventure de nos compositeurs, je pense qu'il faut aujourd'hui mettre le nez dans cette école de peinture et voir quelles étaient les tendances de ces peintres à cette époque. Alors qu'est-ce qu'on entend par école de New York en peinture?
Alors effectivement, on parle de ces 4 ou 5 compositeurs. L'école de New York de musique, c'était plutôt dans les années 50 et 60, mais en fait tout ça a démarré avec les peintres dans les années 30 et 40. Il y a un contexte économique, historique assez particulier aux États-Unis à ce moment-là. Alors déjà, on peut définir l'école de New York comme étant en fait l'école de l'expressionnisme abstrait. Alors, qu'est-ce que c'est l'expressionnisme abstrait?
Grande question.
Donc c'est cette tendance dans les années 40 et 50 vers une expression subjective et surtout spontanée. On parle souvent de l'action painting, c'est-à-dire une façon de peindre qui est révélatrice des émotions que le peintre lui-même ignore parfois, tellement ce sont des choses profondes. Alors évidemment, tout ça est lié à Freud, hein. Toutes les choses qu'on peut révéler sans rendre compte, c'est très intéressant. Mais c'est surtout que ces peintres ont utilisé des techniques non traditionnelles. Et puis il y a la deuxième partie de la phrase, il y a expressionnisme, puis il y a aussi l'abstraction, abstrait, ça veut dire quoi? Principalement, c'est le fait que c'est pas figuratif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de personne, on ne sait pas ce qu'on est en train de regarder. Et les peintres insistaient beaucoup sur le fait qu'ils peignaient leurs émotions, leur subjectivité, plutôt que des situations réelles ou reconnaissables. Ça a été influencé notamment par des grands peintres européens du début du XXe siècle, dont Matisse, Picasso et Kandinsky. Et quand on regarde ces trois peintres, on a un lien déjà musical possible avec des grands compositeurs de l'époque. On commence avec Matisse qui reste figuratif, on voit tout le temps des personnages dans ses tableaux. Mais par contre, les couleurs sont souvent transposées. Par exemple, la couleur de peau va être un rouge foncé, donc c'est assez déstabilisant par rapport à la peinture du 19e siècle, par exemple. Picasso, on connaît très bien. Il est aussi souvent figuratif, il y a des personnages dans ses tableaux, mais il utilise les couleurs d'une façon encore plus déstabilisante. Et puis surtout, notamment dans sa phase cubiste, il commence à introduire des formes géométriques et il perturbe les proportions des personnages pour que les personnages deviennent presque comme des symboles ou des objets. Il y a évidemment des liens qu'on peut faire tout de suite avec la musique, mais poursuivons avec Kandinsky d'abord, puisque pour moi, Kandinsky est vraiment le prédécesseur direct de l'école de New York, puisque ces tableaux sont entièrement abstraits. Il n'y a que des formes, il y a des traits, des cercles, des formes géométriques. Ce qui compte, c'est la composition de l'ensemble du tableau. C'est alors assez chaotique d'ailleurs, mais il y a une espèce d'équilibre qui tient à on ne sait pas quoi.
Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que certains des tableaux de Kandinsky portent le titre de composition. Composition 1, 2, 3.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui a été repris effectivement par l'école de New York américaine. Ces peintres qui utilisaient des titres assez objectifs, des chiffres par exemple, ou comme vous dites, composition. C'était en fait une façon de laisser la place à la personne qui voit le tableau, de ressentir ce que lui veut et de ne pas trop dominer, d'imposer une interprétation.
Déjà avec cette génération de peintres, on a des liens évidents avec la musique. Si on pense à Kandinsky, on pense automatiquement à Schoenberg, qui lui aussi peignait un peu dans le style de Kandinsky.
Tout à fait.
Picasso, pour moi, évoque les ballets de Satie dans le fameux Parade. C'est lui, je crois, qui avait réalisé les décors. Matisse, il y a aussi des liens avec la musique.
Tout à fait. Pour moi, Matisse, je dirais que c'est comme Debussy presque, puisqu'il y a en garde... Moi, personnellement, en tant que musicien, je fais le lien de la façon suivante. Je me dis que le côté figuratif, le côté réaliste, c'est un peu comme la mélodie et l'harmonie. C'est-à-dire qu'on est encore terre à terre, on sait ce qu'on regarde, en fait. C'est quelque chose qui est familier, qui est en rapport avec le passé. Tandis que le côté abstrait, pour moi, dans la musique, c'est l'explosion de tout ça. C'est un peu ce qu'on vient d'entendre avec De Kooning de Morton Feldman. Il y a des notes qui sont de l'espace, mais on ne sent pas un lien direct, on ne sait pas où est, comment on dit en allemand, la maison, on ne sait pas où est, on est perdu en fait. Et je trouve ça très intéressant, cette angoisse qui vient avec ça, puisque ça c'est l'autre partie du côté expressionnisme, c'est que quand on dit expressionnisme, normalement, c'est le mouvement allemand avant-garde du début du XXe siècle, donc des poètes et des peintres, avec de maintes exemples dont Edvard Munch, mais ce qu'on ressent très fortement dans ces tableaux, c'est une espèce d'angoisse latente qui est toujours présente. Ça, c'est quelque chose que les gens ressentent souvent dans les œuvres de John Cage, par exemple, beaucoup moins dans les œuvres de Feldman. Mais pour revenir à l'histoire des peintres, cette influence des peintres européens, les Américains l'ont reçu, cet héritage, de façon assez ambivalente, puisqu'à la fois, ils ne pouvaient pas ignorer cet héritage, notamment de Picasso et de Kandinsky, et en même temps, ils ne pouvaient pas continuer dans cette tradition-là, il fallait trouver autre chose. Il faut dire qu'aux États-Unis, à ce moment-là, j'ai fait allusion tout à l'heure, il y avait un contexte très particulier, c'était la Grande Dépression. Donc, énorme crise économique qui a duré en gros une dizaine d'années, dans les années 30. Et pour combattre contre ce contexte économique, le président Roosevelt a introduit le New Deal. Alors, qu'est-ce que c'était le New Deal? C'est une façon d'employer des gens, des chômeurs, qui n'avaient pas de formation pour reconstruire l'économie. Par exemple, la construction de bâtiments publics, la construction de ponts, de routes. Par exemple, il y a peu de gens qui savent que le pont Golden Gate à San Francisco était construit à ce moment-là, achevé en 1937. Grâce à ce projet qui s'appelait la Works Progress Administration. Et alors, ce qui est encore moins connu, à part chez les historiens d'art, c'est qu'il y avait une section de subvention pour les artistes qui s'appelait Federal Art Project, qui était de 1935 à 1943. Et c'était des énormes commandes publiques, pareil, des artistes, pour souvent décorer, par exemple, des bâtiments publics dans les bureaux de poste. Alors, à travers les États-Unis, encore aujourd'hui, on a des magnifiques peintures murales, par exemple, qui décorent les bureaux de poste, qui datent de cette époque-là. Et il y avait parmi les plus grands peintres des États-Unis, dont Jackson Pollock, Marthe Rothko, Philippe Gouston, qui ont profité de ce système, puisque non seulement ils étaient payés pour la création de ces œuvres, mais aussi ils recevaient comme une allocation mensuelle en tant qu'artiste employé du gouvernement des États-Unis. Donc c'est quelque chose qui a sauvé toute une génération des artistes des États-Unis. Et s'ils ont pu se consacrer à des nouvelles techniques et un nouveau style de peinture, c'est puisqu'ils ont survécu en tant qu'artiste dans les années 30. Donc il faut remercier le gouvernement américain pour pour l'expressionnisme abstrait. Hein. Alors, il faut dire qu'il y avait quand même un thème ou un style qui était souvent mis en valeur par ce genre de travaux publics, c'était le réalisme social, qui rappelle d'ailleurs un peu les tableaux de l'Union soviétique des années 50 et 60.
C'est ce que le terme évoque, en fait, ouais, hein, réalisme socialiste.
C'est-à-dire que sur les murales, il fallait montrer la solidarité, c'était important de montrer l'importance des régions des États-Unis, le province était mis en valeur. C'était aussi, par exemple, justement, les travaux publics étaient mis en scène dans ces tableaux. On voit souvent la construction des bâtiments. Alors, il y avait des artistes qui se positionnaient pour et des artistes qui se positionnaient contre. On a notamment des écrivains, par exemple, qui ont été subventionnés de la même façon et qui ont documenté tout ce qui s'est passé aux États-Unis, sauf qu'une part de ces artistes ont été pour et l'autre qui était contre. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans toute cette histoire, c'est que, en dehors du fait que ça a permis à toute une génération américaine de peintres et d'artistes et même de musiciens de survivre, c'est que ça leur a permis de se rencontrer entre eux, parce que c'était des projets où il fallait avoir des dizaines d'artistes à la fois pour achever ces peintures murales, par exemple. Et du coup, les artistes comme Pollock et Rothko se sont rencontrés pendant cette période. Et c'est grâce à cela que dans les années 40, quand ils vivaient tous à New York, le brassage s'est fait naturellement.
Est-ce que vous connaissiez tous ces travaux avant de vous intéresser à la musique de Morton Feldman, ou c'est par le biais de la musique de cette école américaine musicale que vous êtes entré dans l'univers de la peinture ?
Moi, je connaissais bien l'art visuel avant de connaître l'école de New York de musique, ce qui est assez étonnant puisque j'ai fait des études musicales à l'université aux États-Unis. Mais dès mon enfance, j'étais familier avec des œuvres de Rothko et de Pollock. Pourquoi ? Puisque c'est depuis une vingtaine d'années considéré comme le grand patrimoine artistique du XXe siècle des États-Unis. J'ai grandi en partie à San Francisco. Il y a un musée d'art moderne qui existe depuis les années 30. La première exposition solo en musée de Jackson Pollock était dans ce musée. Donc il y a quand même un grand legs qui reste encore. Et je dois dire que c'est à ma consternation que l'art abstrait passe tellement bien au niveau grand public. C'est-à-dire que les tableaux de Rothko, de Pollock, les gens peuvent apprécier sans formation. Et ce sont des choses qui sont devenues grand public, même aux États-Unis. Il y a des cartes postales qui sont imprimées avec des Rothko. C'est quelque chose qui est familier. Tandis que, par exemple, la musique de Feldman ou de Cage, c'est entièrement inconnu, même des musiciens qui font des études. Moi, j'ai découvert Feldman une fois que j'étais en Europe. J'avais entendu parler de lui, mais ça ne faisait pas du tout partie de ma formation d'étudier Feldman, par exemple.
Donc, les compositeurs n'ont pas profité de la notoriété des peintres pour mieux se faire connaître.
Non, ils ont essayé, je pense.
Alors, justement, c'est John Cage qui, l'un des premiers, s'est lié d'amitié avec ses peintres, Jackson Pollock, Marc Rothko. Est-ce que vous voulez nous raconter comment ce qu'il les a rencontrés ?
Oui, alors ça, c'est une histoire très intéressante, puisque John Cage, il avait 30 ans. Il avait rencontré Merce Cunningham déjà dans l'État de Washington, à Seattle. Il enseignait dans une école qui s'appelait le Cornish School. Après, il est parti à Chicago. Il était invité justement par un artiste peintre à enseigner pendant un an. Et il a décidé de partir à New York en 1942. Alors, en 1942, chez qui il loge, c'est Max Ernst, donc grand peintre allemand, et sa femme, récemment mariée, en 1941, Peggy Guggenheim. Alors Guggenheim, ça vous dit quelque chose peut-être ?
C'est un musée célèbre.
Il paraît que c'est un musée, effectivement. Alors qui est Peggy Guggenheim ? Personnage extrêmement important dans le paysage culturel artistique, non seulement à New York, mais à Londres et à Paris, puisque Elle est née en 1898 et elle a hérité à 21 ans 2,5 millions de dollars à l'époque. Donc ça équivaut 26 millions d'euros aujourd'hui.
Sympathique.
Voilà, parce que son père est décédé sur le Titanic, en fait. Alors, cette femme était friande de l'art, de la littérature d'ailleurs aussi. Elle a ouvert une grande galerie à Londres en 1938. Sa première exposition était André Breton, il me semble. Ensuite, il y avait Vassily Kandinsky. Enfin, elle se fatiguait pas. Elle cherchait tout de suite les artistes les plus connus. Elle est partie en France. Et puis, quand la guerre a commencé, elle est partie. Elle s'est réfugiée dans le sud de la France pour aller en New York en 1941. Alors, on a la chance, finalement, aux États-Unis, que Peggy Guggenheim a quitté l'Europe, puisqu'avec sa fortune, elle a construit une énorme collection d'œuvres contemporaines. Et déjà en 1941, elle pensait à construire un musée. Elle avait déjà ce projet. Pourquoi ? Puisqu'elle avait une galerie et la galerie coûtait trop cher. Elle savait que si elle créait un musée, elle pouvait avoir les subventions. Alors John Cage loge chez Peggy Guggenheim en 1942. Donc Madame Guggenheim a 44 ans, elle est extrêmement ambitieuse. Elle veut connaître tous les artistes, que ce soit des musiciens, etc. Elle propose à John Cage même de déplacer ses instruments de percussion depuis Chicago pour organiser un concert et pour le soutenir, en plus du fait qu'elle le loge. Alors John Cage, infidèle, va demander d'organiser un concert au MoMA, donc au Musée d'Art Moderne. Et évidemment, Peggy Guggenheim le prend très mal parce que finalement, le MoMA est son futur concurrent. Donc elle le vire de chez lui. John Cage n'a pas un sou, mais il avait l'avantage d'avoir vécu chez Peggy Guggenheim et du coup d'avoir rencontré Jackson Pollock, Mert Rothko, beaucoup de grands artistes. Il était déjà introduit. Donc finalement, le lien avec les arts visuels s'est fait grâce à Peggy Guggenheim. Et même s'il s'est fâché avec, le lien était déjà créé. Et à partir de ce moment-là, John Cage fréquentait les artistes visuels au quotidien.
Thank you.
quelques pages du ballet Les Saisons de John Cage, ici dans une version pour piano interprétée par Margaret Leng Tan, une grande pianiste, me disiez-vous, Ivan Illich, qui joue beaucoup cette musique américaine.
Tout à fait, oui.
Deux mots de ce ballet, Les Saisons, pourquoi avoir choisi un ballet alors qu'on parle de peinture?
Alors, John Cage s'est intéressé à cette époque, donc en 1947. Il était en plein milieu de la composition des sonates et interludes pour piano préparé. Et il s'est intéressé à la philosophie indienne, puisque il y avait à ce moment-là un bonhomme qui s'appelait Ananda Kumaraswamy, un Sri Lankais, qui en fait était historien de l'art de l'Inde, et qui a énormément fait pour faire découvrir l'art indien à l'Occident. Donc lui, il habitait aux États-Unis, d'ailleurs il est mort dans le Massachusetts. C'est drôle de voir la façon dont Cage y prend les idées un peu de partout. Il a étudié presque à la même époque le zen bouddhisme dans les cours de la Colombie avec le maître Suzuki. Il y a l'art indien qui l'intéresse. Quotidiennement, pendant 10 ans, il voit des peintres expressionnistes abstraits qui ont évidemment rien à voir. Il s'intéresse aux écrits de Meister Eckhart. Marcel Duchamp est une figure majeure dans sa pensée. Et on fait souvent le lien entre Cage dans la musique et le Marcel Duchamp de la musique. On dit même, parmi mes amis artistes plastiques, que John Cage n'était pas musicien, mais artiste peintre, puisqu'en fait, il est quelque part précurseur des artistes conceptuels d'aujourd'hui. Pourquoi ? Puisqu'il donne des conférences, il est très axé sur les publications, il a peint, il a donné des performances. C'est quelque part le père de la performance aujourd'hui artistique, le père artistique de Marina Abramović, on peut dire. C'est très intéressant comme réflexion. Je trouve que ça va un peu loin et ça minimise de façon trop violente la production musicale de Cage, qui était quand même très impressionnante. Mais par contre, le fait que Cage était aussi ouvert à tous les domaines artistiques, à la poésie aussi, montre un nouveau modèle quelque part. On est très loin des modèles romantiques, par exemple, allemands, de la composition musicale. On est loin de Bach, qui composait pour la messe hebdomadaire de son église. On est loin de l'idéal beethovenien, qui compose pour l'orchestre symphonique, qui n'aurait jamais pu imaginer faire de la sculpture, par exemple. Enfin, là, c'est vraiment un nouveau départ, quelque part.
On se rappelle le mot qu'Arnold Schoenberg a dit à propos de John Cage, ce n'est pas un compositeur, mais un inventeur. Et là, on mesure l'importance de ce terme à la lumière de vos propos.
Oui, tout à fait. Il a inventé non seulement plein de choses dans le contexte de la musique, mais aussi il a inventé une nouvelle carrière, quelque part, pour un compositeur.
Alors revenons à l'importance de la peinture dans sa musique. Qu'est-ce qu'il emprunte aux peintres et aux artistes des arts visuels?
Je pense que Cage a pris comme modèle la façon de vivre déjà des artistes, ce qui est très important, puisque les artistes, les peintres, même s'ils s'acharnaient au travail, c'était des bons vivants. C'était des gens qui partageaient des choses. Les compositeurs ont tendance à être très solitaires, un peu sauvages, en fait. Donc, Cage, en les fréquentant tous les jours avec Feldman, à partir de 18h de l'après-midi jusqu'à 3h du matin, dans le Cedar Tavern à la 8e rue de New York, il s'est imprégné de ce mode de vie aussi. Après, il faut aussi souligner le fait que ces artistes peintres qu'on considérait aujourd'hui comme typiquement américains, que ce soit William de Kooning ou Rothko, sont en fait des immigrés. C'est-à-dire que William de Kooning, il est né à Rotterdam en 1904. Il immigre aux États-Unis à l'âge de 22 ans. Et lui, il devient un peu le père de ces expressionnistes abstraits. D'ailleurs, il a dit que se donner un nom, un titre, comme expressionniste abstrait, c'était un désastre. Mais on ne pouvait pas l'éviter à l'époque. Vous pouvez prendre aussi un Mark Rothko, qui est lettonien d'origine juive. Il est né Markus Rothkowitz en 1903. Son père est pharmacien intellectuel. Il quitte le pays en 1913, donc Rothko a 10 ans. Il parle déjà 3 langues, l'hébreu, le lettonien, le russe. Il va très vite apprendre l'anglais, il est brillant, il saute 2 classes. Il va intégrer l'université de Yale, qu'il va abandonner par la suite. Et ça me rappelle autre chose, c'est que si on compare avec le modèle français, par exemple, les grands intellectuels, que ce soit Camus, Sartre ou Michel Foucault, ont tous fait des brillantes études, ont fait l'école normale sup, etc., avant de faire leur chef-d'œuvre, tandis que aux États-Unis, on a un modèle différent qui rappelle peut-être Steve Jobs ou Bill Gates, qui abandonnent leurs études pour faire des choses nouvelles. Et c'est vraiment quelque chose qui est typiquement américain, cette façon de se construire une identité à partir de zéro.
Quelque part, c'est du rêve américain.
C'est tout à fait ça, c'est le rêve américain. Jackson Pollock, c'est un peu la même histoire. Il est né en 1912 dans le Cody, Wyoming, vraiment un endroit paumé, au milieu de nulle part. Il grandit dans l'Arizona, en Californie. Il déménage à New York à 18 ans et il se construit tout de rien.
Finalement, la peinture américaine, la vraie peinture américaine, s'est construite par des immigrés.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'était un grand mélange et cela a permis, je pense, aux gens comme John Cage ou notamment comme Morton Feldman, qui n'a pas fait d'études et qui était très mal à l'aise par rapport à cela, de se dire que lui aussi, il avait le droit d'exister. Et tous ces peintres, que ce soit Rothko, Pollock, Kooning, Calder, Philippe Guston, Franz Klein, Robert Motherwell, c'était des gens qui avaient chacun un style, une patte tellement identifiable tout de suite. C'était un style à part. Il n'y avait pas vraiment de lien. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Feldman, par exemple. Une fois qu'on a entendu 3 ou 4 morceaux de Feldman, on reconnaît sa sonorité, sa façon de traiter les instruments. Et je pense que si elle n'avait pas connu ses peintres, il n'aurait pas pu peut-être se permettre de construire une identité aussi forte, aussi distinguée des autres.
Et Morton Feldman, dans sa jeunesse, avait aussi étudié la peinture. Donc oui. À un moment donné, il hésitait entre peinture et musique. Donc j'imagine que cette connaissance intime qu'il avait des arts plastiques ont dû aussi nourrir son travail de compositeur. D'ailleurs, sa musique est souvent décrite en termes picturaux, une série de réverbérations à partir d'une source sonore identique, dira par exemple un critique à ce propos. Qu'est-ce que vous en dites ?
C'est vrai que Feldman, comme il était très, très influencé par les propos des artistes, notamment par son grand ami Philippe Guston, avait tendance à parler et même à écrire en termes visuel, c'est-à-dire que quand il décrivait sa musique, il parlait toujours d'un fond, par exemple, ou de l'espace, finalement des paramètres physiques. C'était très important pour lui. Il disait souvent que, avec ses partitions, il les mettait souvent au mur de chez lui, ses nouveaux manuscrits, pour les regarder. Et comme ça, il avait l'occasion de regarder la pièce entière et d'observer son équilibre. C'est une idée très intéressante qui est évidemment directement liée à ses amis peintres. Ça, c'est déjà dans les années 50. Et plus tard, il a dit par rapport à son expérience avec les artistes visuels, « Cette nouvelle peinture m'a donné envie d'un monde sonore plus direct, plus immédiat, plus physique. » Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on ressent, par exemple, devant un énorme tableau de Mark Rothko, le côté physique de l'impact. On a l'impression d'être à l'intérieur du tableau, qu'il n'y a que le tableau qui existe, qu'il n'y a pas de frontière, en fait. Il n'y a pas de différence entre le tableau et le mur, tellement le tableau est immense et nous avale quelque part. Et je pense que Feldman était très impressionné par cela. Il voulait créer le même effet dans ces morceaux qui durent des heures et des heures. On est tellement dedans qu'on on sort plus. Et ça, c'est quelque chose qui est en lien avec Cage. C'est assez drôle. Pour Cage, la musique ne s'arrêtait jamais. La musique était en continuité. C'était juste une question, est-ce qu'on l'écoute ou pas ? Pour lui, les bruits de la rue étaient, comme il disait, aussi jolis, aussi intéressants que ses pièces. Donc pour lui, ça c'est quelque chose qui est assez oriental dans la pensée. C'est la musique, c'est une espèce de source qui coule en permanence. Et soit on est branché, soit on n'est pas branché, mais ça ne veut pas dire que la musique s'arrête.
C'est intéressant, effectivement. Alors que chez Morton Feldman, on a le sentiment que la musique ne peut pas être les bruits de la rue uniquement, mais la musique doit être travaillée, doit être quelque chose de beau.
Tout à fait. Morton Feldman, ça fait partie de sa particularité, qu'il avait une esthétique tellement spécifique, avec des paramètres définis. On peut caricaturer sa musique assez facilement en jouant quelques notes au piano, abstraites, avec beaucoup de pédales, par exemple, très doucement, une improvisation qui peut durer une heure. Et c'est pour cela, je pense, que les improvisateurs de jazz free sont tellement intéressés par cette musique parce que ça leur semble tout à fait en rapport avec eux, ils font la composition en temps réel.
Thank you.
For Bonita Marcus, une pièce de Morton Feldman que vous interprétez ici en primeur pour nous, Ivan Illich. Ça fait partie d'un enregistrement qui paraîtra bientôt, j'espère. Cette pièce, comment est-ce qu'on l'interprète? Est-ce qu'elle est écrite aussi en cette fameuse notation graphique qu'a développée Morton Feldman?
Non, la notation graphique était juste une période dans la vie de Feldman quand il était assez jeune. D'ailleurs, c'était juste après sa rencontre avec Cage. Après, Feldman a recommencé à écrire des choses de façon assez traditionnelle, finalement. Mais par rapport à cette notion de notation graphique, c'est assez drôle parce que Feldman, finalement, il a... Donc, qu'est-ce que c'est la notation graphique, finalement? C'était l'idée que Feldman a eue un jour dans l'appartement de John Cage où il allait préciser la hauteur des notes approximativement, sans préciser les notes exactes, puisque parfois il se disait « là j'ai envie d'entendre une note aiguë, mais peu importe la note finalement ». Et c'était quelque chose qui intéressait énormément les autres compositeurs de l'école de New York. John Cage, par exemple, tout de suite, il a accroché. Il a dit « ça c'est quelque chose à creuser ». Earl Brown aussi, il trouvait ça très intéressant d'avoir une notation ambiguë où on ne savait pas exactement que l'idée était d'avoir une espèce de forme ou une vague sonore. Christian Wolff a fait la même chose. Par exemple, il a écrit des mélodies où on voit que la mélodie monte et descend, mais on ne sait pas quelles sont les notes exactement. Bon, après, on peut argumenter que c'est quelque chose qui existait déjà dans la musique de Renaissance, mais dans le contexte de New York des années 1950, c'était quand même assez novateur. Morton Feldman, donc, qui a inventé cette notation, a été assez vite découragé puisqu'il a réalisé que lorsqu'on fait cela, eh bien, l'interprète a souvent trop de liberté et il va changer l'esthétique. C'est-à-dire, par exemple, s'il va choisir des notes qui sont dans un contexte tonal, ça casse complètement l'ambiance et c'est pas du tout ce qu'il voulait, Feldman. Ou alors, par exemple, il y a les Last Pieces des années 60 de Feldman aussi, où il spécifie les notes, mais pas les durées des notes. Et selon l'interprète, ça pouvait donner des choses tellement lointaines de ce qu'il avait envisagé qu'il s'est dit que finalement, préciser les notes de façon traditionnelle, c'était mieux. Alors, comment est-ce qu'on joue ces partitions graphiques? Parce que ça, c'est une grande question. Par exemple, les partitions de Earl Brown, qui sont en effet des dessins, ça, c'est une grande question. Après, il y a une espèce de tradition qui veut qu'on interprète cette musique de façon à que ça sonne comme des pièces de ces mêmes compositeurs qui sont écrites.
Donc, ça nécessite une intime connaissance de l'œuvre du compositeur qu'on interprète.
Exactement. Et bien, pour les œuvres de Feldman, c'est la tradition que même Feldman a cautionnée. C'est-à-dire qu'en 1952, par exemple, si vous jouez les œuvres de Feldman en notation graphique, vous n'avez pas de piste. Mais s'il a écrit des œuvres semblables 10 ans plus tard, il les a écrites dans une notation traditionnelle. Là, vous avez de la matière qui vous dit, bon, ça, c'est le style, ça, c'est la nuance, ça, c'est le genre d'accord que Feldman aime, ça, ce sont des sons feldmaniens que je vais donc utiliser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les interprètes ont la chance d'avoir toute l'œuvre de Feldman et pouvoir appliquer une esthétique postérieurement à des partitions. Mais je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de s'en sortir.
Et sur le plan technique, est-ce que le piano de Feldman est très difficile à aborder?
Il n'est pas difficile du tout, justement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est assez étonnant qu'il n'y a pas plus de gens qui l'abordent, notamment chez les pianistes qui jouent du grand répertoire, on va dire. Moi, j'étais très surpris, par exemple, de constater que cette pièce qu'on vient d'entendre, For Bonita Marcus, je pense qu'il y a entre 10 et 15 enregistrements qui existent aujourd'hui. Et tous les pianistes qui jouent ce répertoire, à part moi, sont des spécialistes de musique contemporaine. Ce sont des gens qui jouent que Feldman, que Cage, que Nono, que Boulez, que
Stockhausen,
etc. Et je trouve ça assez drôle parce que Feldman, notamment, sa façon d'aborder le clavier est tout à fait traditionnelle. On peut revenir là-dessus, mais pour moi, Feldman est étroitement lié à Chopin, à Scriabine, à tout cet héritage du beau piano. C'est-à-dire que même si les mélodies sont abstraites, il y a des mélodies. On entend parfois une espèce de tonalité fugace, mais qui existe quand même. Et résultat, on a l'équipement, on a la formation pour jouer cette musique, mais on ne la joue pas. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on est spécialiste, quand on joue que Stockhausen et Boulez, on aborde cette musique d'une façon totalement différente. On va, par exemple, chercher à casser la continuité. puisque c'était quelque chose qui était recherché dans le XXe siècle. Sauf que Feldman, si vous lisez ses conférences, si vous connaissez le bonhomme, il était obsédé par le passé. On sentait bien, même s'il n'osait pas l'exprimer, que lui, son plus grand rêve, c'était de faire partie du grand répertoire un jour. Et pour moi, ce jour est arrivé. Pour moi, Feldman, ça y est, il devrait intégrer le grand répertoire. Et je vois ça et là dans les concerts, pas tellement dans les enregistrements, qu'il y a quelques pianistes qui jouent les concertos de Rachmaninov qui vont de temps en temps jouer des pièces de Feldman. On n'y est pas complètement encore.
Eh bien, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. En tout cas, vous êtes bien parti pour nous donner envie de mieux découvrir ce compositeur et surtout d'aller jouer ses œuvres. Ce qui m'a frappé aussi en écoutant cette pièce For Bonita Marcus, c'est le côté répétitif. Et j'ai envie de rattacher cette pièce à l'école minimaliste américaine.
Tout à fait. Alors ça, c'était en particulier le passage là où Feldman il retourne 3 notes, 4 notes de la même façon, mais toujours avec un léger décalage rythmique qui est très intéressant. Et qui nous permet de rester accrochés à la musique. Puisque si c'est, quand c'est vraiment purement répétitif, justement, le cerveau s'éteint un peu, ou alors nos pensées s'enfuient. Je dirais que la plus grande différence avec, en tout cas, les premiers minimalistes, c'était que les premiers minimalistes, ils créaient souvent ce qu'on appelait process music. C'est-à-dire que ce sont des espèces de schémas rythmiques qui ont une logique en elles-mêmes. Et si vous entendez les premières 3 minutes, vous savez que le rythme va basculer vers autre chose, mais de façon finalement assez prévisible. Donc si vous avez l'esprit un peu mathématique, vous pouvez entendre ce genre de choses et vous dire « bon, bah, je sais que la pièce va continuer ainsi ». Tandis que chez Feldman, même dans les parties, comme on vient d'entendre, très rythmiques, où effectivement ça se répète beaucoup, il change les choses toujours de façon intuitive. Et résultat, même lui, il ne sait pas ce qu'il va faire la mesure suivante. Et ça donne une petite épice qui me plaît beaucoup musicalement, puisque ça retient l'attention.
Et ce côté minimaliste aussi peut être mis en parallèle avec les peintres ou un peintre comme Marc Rothko, où on a peut-être un tableau qui est dans une seule tonalité, la tonalité de rouge, mais avec d'infimes variations à l'intérieur. Et pourtant, on est toujours dans ce cadre dont on ne peut pas s'échapper. Il y a ce côté chatoyant de la couleur qui réverbère, qui brille de mille feux.
Tout à fait. Moi, ça me fait penser personnellement, par exemple, plus au grand tableau de Pollock, puisqu'il y a tellement de petits gestes, tellement de peinture qui est versée sur le tableau en petites gouttes, des petits détails qui finalement s'accumulent. On peut éventuellement aussi faire le lien avec Monet, par exemple, avec ses coups de pinceau. C'est tellement de petits coups de pinceau qui font le tout. Et finalement, il faut avoir beaucoup de distance du tableau pour le voir. Et avec Feldman, c'est un peu la même chose. Il disait plutôt dans sa carrière que regardez, quand il composait sa musique, c'était un peu comme s'il regardait par un microscope. Il regardait des insectes qui bougeaient tout simplement. Et ce n'est pas lui qui les contrôlait. C'est une idée, une image assez belle. Et puis plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans une interview, il a inversé l'image. Il a dit « J'aimerais qu'on écoute ma musique comme on regarde par un télescope. » Donc quelque chose qui est très lointain, qui bouge, que, encore une fois, qu'on ne contrôle pas. Mais il y a une certaine distance dans l'émotion. Et ça, on le ressent chez lui. Alors, évidemment, en enregistrement, on l'entend comme si on était dans le piano. Mais si vous écoutez cette musique en concert, on oublie souvent qu'elle est jouée à la limite de l'audibilité. C'est-à-dire que toute la partition est marquée pianissimo, on l'entend à peine, et ça intrigue davantage. Thank you.
On a beaucoup parlé de l'importance de Jackson Pollock et de Mart Rothko sur l'œuvre de John Cage et de Morton Feldman. Et il y a un peintre qu'on a un petit peu laissé de côté. J'aimerais bien qu'on termine ce volet avec lui. C'est Philippe Guston. Et je crois que Philippe Guston et Morton Feldman étaient très liés d'amitié.
Tout à fait. Alors, je pense que le grand déclic esthétique pour Feldman New York, encore plus que sa rencontre avec John Cage, c'était avec Philippe Guston. John Cage l'a emmené dans un musée voir les œuvres de Philippe Guston en 1950, peu après leur première rencontre. Et il était sidéré par ces tableaux qui sont à la fois abstraits mais avec une certaine distance. Pas avec des couleurs vives, justement, qu'on a évoquées tout à l'heure avec les Picasso et tout le reste qui ont influencé Rothko, etc. Mais c'était au contraire des couleurs assez pâles. Et ça, il y a un lien direct avec ce que Feldman essayait de faire à l'époque. C'est-à-dire que Feldman, il faisait tout le temps pianissimo, des toutes petites pièces modestes, abstraites, assez distantes au niveau émotionnel. Et Feldman a tout de suite eu envie de rencontrer ce bonhomme. Alors, Philippe Guston, né en 1912, était de la génération de Cage, donc avait quand même 14 ans de plus que Feldman, mais ils se sont liés d'amitié directement. Ils avaient beaucoup de choses en commun, ils étaient tous les deux juifs de New York, ils aimaient discuter de la littérature, des grands lecteurs invétérés tous les deux, qui lisaient de la philosophie. Et j'étais très étonné, puisque je connaissais mieux l'histoire de Feldman, de constater, en lisant les écrits et les conférences de Philippe Guston, que Feldman a emprunté pas mal d'idées de Philippe Guston, il me semble, ou en tout cas, c'était des idées partagées. Alors, l'histoire avec Philippe Guston est très intéressante. Elle est traitée dans le livre qui sort bientôt en collaboration avec la Haute École d'Art et de Design de Genève, puisque c'est une amitié qui a marqué les deux. Et puis, Philippe Guston, à un moment donné, il a décidé de changer au niveau esthétique. Il ne croyait plus dans l'expressionnisme abstrait. Il croyait que c'était sans issue, finalement, que c'était une impasse esthétique. Et après avoir peint de très nombreux tableaux, parce que c'est un artiste extrêmement prolifique, il s'est retiré de tout le monde. Il a commencé à dessiner des choses très simples, des traits, un trait à la fois. Ses tableaux, tous les jours, il dessinait des choses extrêmement simples, comme s'il se refaisait une technique. Et à la fin des années 60, il a eu une espèce de déclic où il a carrément basculé vers quelque chose de figuratif avec des personnages qui rappellent des bandes dessinées, assez maladroits, assez drôles, assez autocritiques finalement. C'est comme s'il se peignait lui-même une espèce de personnage qui était mou, paresseux, bête, qui fumait gros, avec une grosse tête. Et il y a eu notamment une grande exposition, première exposition de ses nouveaux tableaux à Marlborough, en province à New York. Et ça a été un scandale dans la vie artistique de New York, puisque c'était en effet l'un des plus grands peintres de l'expressionnisme abstrait qui abandonnait cette esthétique. Et Philippe Guston, du jour au lendemain, il a perdu l'amitié de 80% de ses amis dans l'art, dont Morton Feldman. Et Morton Feldman décrit cela plus tard, puisque Philippe Guston est mort en 1980. Et on sent que Feldman a eu des regrets après, puisqu'il a écrit l'un de ses chefs-d'œuvre qui s'appelle « Fort Philippe Guston », un trio très intimiste qui dure 3h30. Et dans une conférence avant la création, Morton Feldman dit « J'ai réalisé que Philippe Guston a changé, mais moi aussi, j'ai commencé à changer. » Et du coup, je pense qu'il a finalement compris le changement de Guston, mais ça lui a causé énormément de peine.
Eh bien, c'est avec, je pense, la pièce Fort Philippe Guston que nous allons refermer ce volet consacré à la peinture. On vous retrouve demain, Ivan Litch. Et cette fois, on mettra également le nez dans 3 chefs-d'œuvre de cette école de New York. À demain.
À demain.
Une œuvre de Morton Feldman pour conclure cet épisode de cette fresque de l'école de New York que vous nous brossez cette semaine, Catherine Buzer. Merci Catherine.
Merci à vous.
Que vous nous brossez avec votre invité, le pianiste américain Ivan Illich. On vous retrouve demain, bien sûr toujours dans la réalisation de Dominique Stalder. Isabelle Watson, l'assistante de production de cette proposition de Joe de Crider. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.